Bonjour et bienvenue sur Sortie de cadre, le podcast qui vous aide dans votre cheminement intérieur. Je suis Sarah et il y a 10 ans, j'ai entrepris un profond travail personnel qui m'a permis de complètement transformer ma vie. Depuis, je ne cesse de cheminer grâce à des techniques de développement personnel et spirituel. Je suis également coach et praticienne en EFT, en logosynthèse, TAT et bien d'autres techniques énergétiques. Un jeudi sur deux, vous retrouverez un nouvel épisode, soit en solo, soit en interview. Merci d'avance pour votre fidèle écoute. Hello tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast où je serai en solo, en confidence avec vous pour vous parler d'estime de soi, en tout cas du parcours qui veut que je m'intéresse autant à l'estime de soi aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que je vais en faire des ateliers et que je veux que ça soit un petit peu le centre de mon activité de coaching. Donc vous allez comprendre pourquoi, parce que je pense que des fois, il faut revenir à la base et souvent, on se dit, tiens, pourquoi telle personne fait ça? Moi, j'aime souvent comprendre comment ce que la personne arrive à faire cette activité-là, à parler de ce sujet-là. Et je me dis, ben tiens, pourquoi pas aborder ça avec vous, comme ça, vous allez mieux comprendre. Donc, ce parcours, il commence... Alors, j'ai pris quelques petites notes, hein, vous allez voir, mais ça risque d'être un petit peu pas totalement préparé comme d'habitude parce que j'ai pas préparé, j'ai juste noté quelques étapes, mais on va voir ce que ça va donner. Donc mon parcours commence en fait, donc déjà pour vous situer un petit peu l'histoire, c'est que moi je viens d'une famille de 3 enfants, donc j'ai la deuxième place. La deuxième place, si vous connaissez un petit peu ce genre de position dans la fratrie, dans la généalogie, en général c'est la place qui cherche un peu sa place, on va dire c'est la personne qui va chercher un peu sa place, qui va se sentir un peu les fesses entre deux chaises, on va dire. Et moi j'arrive juste après ma sœur qui a presque 3 ans de plus que moi, donc elle c'est l'aînée, c'est la leader, elle a souvent beaucoup d'amis autour d'elle, elle est très 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 sociable. Moi, je suis plutôt dans mon coin et je suis plutôt observatrice de la vie, un peu introvertie, ma sœur plutôt extravertie, deux caractères très différents. Dans la société, bien évidemment, on valorise toujours plus les extravertis, on valorise toujours plus ceux qui savent se socialiser, etc. Enfin, peut-être que ça a changé entre-temps, hein, je veux dire, mais à cette époque-là, je pense que c'était comme ça. Donc déjà, j'ai peut-être développé un certain complexe par rapport à ça parce que, bien évidemment, et plus tard, je vais pas vous en faire part dans la suite de cet épisode, de cette histoire, mais les parents, bien évidemment, ils font pas forcément exprès, mais ils ont tendance à comparer les enfants les uns avec les autres alors que c'est pas du tout comparable. C'est comme comparer une fleur avec une autre fleur, en fait. Chaque fleur a son utilité et donc la comparaison ne sert absolument à rien parce que on peut pas comparer quelque chose d'unique avec quelque chose qui est unique aussi. Donc voilà, ça arrive, les parents font des erreurs comme tout le monde. Et je me suis très vite sentie comparée à ma sœur, comme quoi ma sœur était mieux que moi, parce qu'elle avait des meilleures notes à l'école, parce qu'elle avait plus d'amis que moi, parce qu'elle était plus courtisée par les garçons que moi, enfin bref. Donc ça a pu du coup faire tilt avec ce départ d'estime de soi instable qui fait que dans l'estime de soi instable, on se compare souvent aux autres, on se rabaisse par rapport aux autres. Donc les autres sont toujours les mieux que nous. Donc c'est une petite anecdote, ou en tout cas le départ de ce parcours-là. Mais qui va quand même se retracer sur pas mal d'années, hein, parce que ce que je vous ai dit là, la comparaison, etc., ça va se retracer sur pas mal d'années, c'est pas qu'au début. Mais là où vraiment ça va prendre forme, enfin en tout cas l'estime de soi va vraiment, mon estime de soi va être mise à mal le plus, et là je vous dis, j'ai vraiment encore maintenant, je pense qu'on me dirait, tu vas à l'école, en tout cas, à cette époque-là, je retournerai à l'école, je dirais non, parce que c'est vraiment l'école qui a le plus forgé mon estime de soi instable, pour plusieurs raisons. Alors déjà, la première, c'est que Ma maman me disait souvent que j'étais quelqu'un qui était très passif, donc elle m'avait ramenée une fois de l'école et j'avais un œil au beurre noir, donc je me faisais taper par les camarades de classe. Et puis par la suite, en fait, donc il y avait déjà ce problème par rapport aux autres, de ne pas savoir poser ses limites, de ne pas savoir se défendre. Et ensuite, après, quand je suis rentrée dans les primaires, etc., on m'a diagnostiqué, des difficultés d'apprentissage. Et ces difficultés d'apprentissage ont fait que, ben voilà, j'étais peut-être dyspraxique. Je pense que j'en avais déjà parlé dans. Enfin, j'ai tellement raconté cette histoire que je ne sais même plus si j'en ai parlé ici dans cet épisode-ci, ou dans ce podcast, ou dans une vidéo. Je ne sais plus. Mais bon, bref, vous m'en voudrez pas parce que c'est toujours bien de raconter l'histoire, les mêmes histoires, ben, ça permet de se connecter, hein, finalement. Et donc, du coup, comme j'ai eu ces difficultés d'apprentissage, j'avais des remédiations en logopédie, des remédiations en psychomotricité. Parce qu'en fait, j'ai un problème d'espace, donc j'ai un problème de gauche et de droite. De la gauche à la droite, je confondais les espaces, j'écrivais sur la feuille. Par exemple, une phrase, elle prenait toute la largeur de la feuille. Donc voilà, donc remédiation, logopédie, psychomotricité, et ça m'a pas aidée puisque j'ai redoublé l'année où on m'a fait pas. En fait, on m'a fait passer une année et j'ai redoublé cette année-là, même avec les remédiations, etc. Donc, j'étais pas adaptée à ce qu'on m'apprenait. Et forcément, on se sent un peu nul, on se sent un peu, ben voilà, pourquoi j'arrive pas, c'est que je suis pas intelligente, c'est que je suis pas bonne, etc. Alors que pas du tout, ben, j'aurais peut-être dû avoir un autre enseignement, mais à cette époque-là, ben voilà, c'était pas forcément les cas, parce que c'était début des années 90. Donc, fin des années 80, début des années 90. Donc, voilà, c'était pas encore mis en place. Donc, j'ai doublé une première année. Puis après, ça a été mieux au niveau des difficultés d'apprentissage, à part que j'étais hyper nulle en gym. Ben, dû à mon problème d'espace, là. Donc, c'est-à-dire que j'étais très gauche et quand, par exemple, je devais jouer au volley, etc., j'étais nulle. Parce que je ne savais pas rattraper le ballon, je me le prenais en pleine face. Ben, voilà, j'étais pas très douée dans ce sport. Et ça m'a valu quelques petits épisodes avec des camarades de classe, surtout quand on faisait des équipes. Vous voyez un petit peu le genre, des équipes pour jouer au basketball, au baseball, enfin je ne sais plus trop quoi comme sport. Et forcément, quand vous rattrapez, vous chopez la nulle de la classe, ça fait pas plaisir à l'équipe dans laquelle vous êtes. Et donc forcément, ça vaut quelques réflexions et quelques remarques. Donc ça, c'est un premier épisode par rapport à l'école. C'est les difficultés d'apprentissage, c'est la sensation d'être un peu décalée avec le système d'enseignement. Donc du coup, se rabaisser par rapport aux autres qui eux réussissent, etc. Dans mes relations avec mes camarades de classe, puisque je vais me faire harceler plusieurs fois, hein. Plusieurs fois pendant ma scolarité, je pense en primaire, c'était vraiment la période où je me suis peut-être fait harceler, mais par période, mais où il y a eu des petits épisodes comme ça, mais c'était pas vraiment flagrant. C'est vraiment quand j'ai commencé à changer d'école, et là, ça a été, je me suis retrouvée en plein milieu d'une bagarre alors que je voulais pas du tout me battre, je me suis retrouvée, dans les pires humiliations que j'aurais pu avoir, bref. Et j'étais vite repérable parce que, en fait, je parlais pas, j'étais calme, je disais rien, je participais pas aux conversations de groupe, j'essayais de me faire toute petite et forcément, je vous en avais parlé, je pense que je vous en avais un peu parlé dans l'épisode où j'avais parlé des nœuds sud, des nœuds nord. Donc voilà, je pense qu'on est arrivé à cette période-ci. Et donc, du coup, ça m'a valu pas mal de. Je dirais peut-être des traumatismes, mais je sais pas si j'irai jusque-là, mais en tout cas, de dénigrement de moi. Et je me souviens, en fait, qu'à cette époque-là, je prenais le bus pour aller à l'école. Et à côté du fait que je me sentais nulle, donc intellectuellement par rapport à l'école, que je me sentais nulle socialement par rapport aux autres, puisque j'avais des difficultés avec les relations, avec les interactions, avec la communication avec les autres, etc., vu que je me faisais harceler pour ça. En plus de ça, C'est à cette époque-là que je me trouvais très moche physiquement. Je savais pas me voir en peinture dans un miroir. J'avais dépassé la période de l'acné. Hein. J'ai eu beaucoup d'acné quand j'étais adolescente et c'était vraiment horrible. J'étais vraiment pas belle du tout. J'avais des boutons partout et je pouvais pas me voir dans le miroir. J'avais dépassé cette période-là. J'avais fait un traitement contre l'acné. Mais malgré tout, ça m'était resté. Pour moi, je n'étais pas assez belle, j'avais des cheveux trop épais, j'avais. Comparé aux autres, etc., je n'étais pas assez mieux bien habillée qu'elle. J'avais une estime de moi, mais basse à tous les niveaux. C'est-à-dire, je ne me trouvais pas belle, je ne me trouvais pas intelligente et je ne me trouvais pas adaptée à la société. Donc, c'était vraiment estime de soi zéro. Et puis après, les harcèlements scolaires, qu'est-ce que ça fait? Ça dénigre encore plus l'estime de soi parce que vous recevez à longueur de journée des remarques, des choses qui sont pas gentilles, des choses qui vous rabaissent, qui vous dénigrent. Et forcément, ça vous aide pas du tout. Puis j'ai changé encore une fois d'école. Là, j'ai eu mon diplôme. Donc là, j'étais vraiment en école supérieure et j'ai revécu ce type d'harcèlement. Après avoir supporté toutes ces années-là sans jamais avoir travaillé sur l'estime de soi, parce que forcément je ne savais pas ce que c'était à l'époque, personne ne savait, personne ne nous apprend à travailler sur ça, alors que c'est primordial pour moi, c'est l'une des bases, mais bon. Et donc j'arrive dans cette école, je venais de sortir de ces années très difficiles pour moi, puisque c'est les années précédentes, c'est les années où j'avais vécu le plus de harcèlement scolaire, et ça c'était vraiment devenu du acharnement, même que j'étais, à cette époque-là, j'avais 18 ans, donc j'étais même une jeune adulte, hein, mais je me faisais quand même harceler. Et donc j'arrive dans cette école supérieure, études d'art, et je me refais harceler par un type, et là je tiens pas, donc je termine l'école, et là je me dis, là c'est la fin. C'est la fin de l'histoire entre moi et l'école. C'est fini, c'est terminé. Je ne veux plus jamais retourner à l'école. C'est-à-dire, j'ai vraiment, s'il y a vraiment un truc dans cette vie que j'aimerais bien nettoyer, c'est mon rapport à l'école. Alors peut-être que c'est parce que je suis venue changer la manière dont l'école doit évoluer, parce que clairement, on y est là. L'éducation actuelle n'est plus du tout. Alors elle commence un petit peu à évoluer, mais elle n'était plus du tout adaptée aux enfants de maintenant, en fait. Donc, peut-être que c'est pour ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai vécu le pire du pire, c'était à l'école. Hein. Donc là, je me suis dit stop, j'arrête. Et j'ai vécu une dépression par la suite parce que j'avais tellement pris de choses sur moi que, parce que j'en parlais à personne, bien évidemment, personne ne savait. J'avais tellement honte de ne pas savoir me défendre que je disais rien. Et donc la dépression est arrivée, et là aussi, forcément, la dépression sur l'estime de soi, ça empiète un coup, hein, forcément, parce que clairement, là, on est vraiment dans un trou noir, en fait. On a une perte de sens, on a l'impression qu'on ne sert plus à rien, qu'on ne sait plus ce qu'on fait sur Terre, que ça ne vaut plus la peine de continuer, que voilà, tous les jours qui passent, c'est vraiment, chaque jour suffit sa peine. C'est très, 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 très dur, en fait. C'est vraiment pas facile à vivre, surtout quand on se sent seul, quand on se sent pas accompagné, quand on n'a personne qui est là pour nous écouter et pour nous dire, pour nous soutenir et pour avoir les bons mots. Moi, j'avais personne, quoi. J'étais seule avec... J'ai eu quelques personnes, à un moment donné, j'ai eu ma tante qui m'a pris un petit peu sous son aile, qui m'a amenée à l'église, ça m'a fait du bien, mais ça m'aidait pas forcément. La dépression, c'est quelque chose qu'il faut traiter, hein. C'est une maladie psychologique, donc c'est pas une maladie, je sais pas si c'est une maladie, je pense pas. En tout cas, c'est ça a traité psychologiquement, et ça peut même aller jusqu'au suicide, donc c'est dire si c'est pas anodin, quoi. Donc je m'en suis sortie, mais après, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas de job, j'avais pas de qualification, quoi que ce soit. J'étais diplômée, oui, j'avais ce qu'on appelle en France le bac, j'avais ça, mais j'avais pas de spécialisation en rien. Et donc, quand on a une estime de soi instable et qu'on cherche un job et qu'on a vécu tout ça, bienvenue dans la vie d'adulte. Et on part de la base zéro, c'est même pas zéro, quoi. C'est -1, -1, -1, -2, -3, -4, c'est-à-dire que si on part dans la vie avec une estime de soi à -4, On part forcément sur des bases qui sont pas du tout solides, et c'est ce qui m'est arrivé, puisque après la dépression, après tous ces épisodes-là que je n'avais pas traités, j'avais pas été chez un psy, je démarre avec pas grand-chose, et donc du coup, l'étape d'après l'école, c'était soit reprendre des études, mais je vous ai dit, moi j'ai arrêté totalement l'école, c'était fini pour moi, là, j'avais eu ma dose, la dernière expérience, j'avais eu ma dose. Donc, j'avais pas trop le choix, c'était soit reprendre des formations, soit aller travailler directement. Donc, aller travailler directement, j'avais pas de qualification, j'avais pas d'estime de soi, donc je savais pas me vendre, je savais pas aller trouver les gens, j'étais trop timide, j'étais encore trop réservée, donc, j'arrivais pas à trouver un job, et donc, je me suis formée. Je me suis formée en langue, je me suis formée en secrétariat, et évidemment, j'ai choisi des formations qui étaient, à ma portée. Je dis pas que j'étais pas du tout attirée par ce que j'allais faire, c'est-à-dire le secrétariat. Donc, je pense que ça m'apportait beaucoup, notamment l'organisation, la structure, que j'avais pas du tout et que je pense je suis venue apprendre ici, avec ce métier-là et qui se poursuivra pendant une dizaine d'années. Mais clairement, c'est pas du tout un métier, si ce n'est que pour ça, pour apprendre la structure, l'organisation, etc. C'est clairement pas un métier qui me faisait, entre guillemets, kiffer. Si, la seule chose qui m'attirait, c'était, j'aimais beaucoup travailler avec les papiers. Quand j'étais petite, en fait, j'avais un espèce de bureau fictif où j'avais plein de papiers, etc. Et donc, j'aimais bien les papiers, donc je triais les papiers, j'aimais bien avoir des papiers autour de moi. Et donc, à part ça, à part apprendre la structure d'organisation qui m'a beaucoup aidée, qui m'aide encore maintenant, hein. Moi, je suis un cerveau droit, donc je suis quelqu'un de très créatif. Le métier de secrétariat, c'est un métier peinard, quoi. C'est un métier où on n'évolue pas. C'est exécutif, quoi. Donc, j'étais pas du tout, en fait. J'ai pas du tout choisi quelque chose que j'aimais. Et pourquoi j'ai pas choisi quelque chose que j'aimais? Parce que j'avais pas une bonne estime de moi. Parce que quand on ne se connaît pas soi-même, quand on ne reconnaît pas sa valeur, quand on n'a pas qu'une estime de soi, on est blessé, etc., dans son ego, on a des difficultés relationnelles, en tout cas tout le bagage que je me suis chopé avant, on part pas du bon pied forcément. Moi, je ne le savais pas à cette époque-là. C'était très compliqué pour moi de m'adresser aux gens, de parler au téléphone, c'était le stress, c'était l'anxiété. Et donc, du coup, je ne dis pas que j'ai perdu des années, mais je pense que j'aurais une estime de moi qui aurait été forgée différemment. Je pense que j'aurais pas choisi ce métier-là. Moi, à la base, je voulais faire des études artistiques et je pense que je suis quelqu'un de très créatrice, très créative et plutôt artiste. Je pense que voilà, mon envie, c'était de faire de l'art de la scène et c'est ce que je sais pas du tout faire. Donc, vous voyez la différence entre le secrétariat et l'art de la scène, ça se rejoint pas du tout. Donc voilà, là c'est vraiment à ce moment-là que je trouvais que l'estime de soi. Alors, ce qui est bizarre, c'est que le monde du travail vraiment m'a forgé un caractère. Ça m'a vraiment. Autant l'école m'a détruit tout, ça m'a détruit mon caractère, autant le monde du travail, ça m'a vraiment aidé à me sociabiliser avec les autres, à acquérir des compétences sociales, à m'affirmer, à avoir plus confiance en moi, parce que forcément, j'ai changé de job plusieurs fois, et donc forcément, il fallait s'adapter. Mais au niveau épanouissement, on va dire, c'était pas du tout top. Donc voilà où mon parcours d'estime de moi peut s'arrêter, c'est-à-dire que voilà comment on peut démarrer en fait avec une estime de soi instable et on peut dévier vers quelque chose qui forcément ne va pas nous épanouir parce que forcément plus on va s'estimer, plus on va s'accorder de la valeur, plus forcément on ne va pas accepter quelque chose qui n'est pas fait pour nous. Mais moi je regrette pas du tout ce que j'ai fait par le passé. Et je vous dis, ça m'a appris énormément de choses. Donc voilà, mais c'est vrai que entre choisir d'avoir expérimenté ça et me dire ah j'aurais quand même voulu directement être là où je me sens épanouie directement plutôt que d'attendre et de vivre des moments je dirais de bore-out quoi, vraiment des moments où j'en avais marre, où j'évoluais plus, où je m'ennuyais, où tant le monde la période scolaire a été catastrophique au niveau relationnel, au niveau estime de soi, directement ça m'a cassé. Autant le travail, ça m'a aidé à reprendre des bases, mais au niveau épanouissement, c'était zéro quoi. Donc voilà un petit peu par rapport à mon parcours. Donc vous comprendrez un petit peu pourquoi l'estime de moi, je reviens de loin. Hein. Je reviens vraiment de loin et comment j'ai acquis cette estime de moi maintenant, je dirais qu'elle est variable, hein, ça varie tous les jours, hein, l'estime de soi. Mais en tout cas, comparé à qui j'étais à l'époque, avant de choisir un métier ou même après ma dépression, ça n'a rien du tout à voir. Je pense que ça a été vraiment j'ai cherché ma vérité par moi-même, j'ai cherché les solutions par moi-même. Je me suis formée, j'ai travaillé sur moi pendant plusieurs années et je pense que je suis jamais arrivée en fait. Hein. Je suis en constante évolution et en constante transformation vis-à-vis de cette estime de soi. Mais je pense franchement que si je revenais en arrière, même si j'ai pas de regrets sur mon parcours, j'aurais tellement eu envie que quelqu'un me donne ça. Quelqu'un me dise, ah oui, en fait... Pas que les gens t'aiment pas, tu vois, c'est pas que t'as un problème, c'est juste que t'as un problème d'estime de toi en fait. Ok, et il y a des moyens pour s'en sortir, et j'aurais tellement aimé qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour moi, pour me dire ça, et qui me dise comment faire pour me sentir mieux avec les autres, pour me sentir mieux avec moi-même, pour me sentir épanouie dans ce que je fais, que je trouve ça tellement important en fait de parler de ce sujet parce que pour moi c'est l'une des bases avec la connaissance de soi. Pour pouvoir arriver à être épanoui dans sa vie, tout simplement, et être heureux, et pouvoir répandre ce bonheur sur les autres, sur le monde, être à sa place. Et je pense qu'on aspire tous à ça, finalement, sur cette terre. Donc voilà, ça me tient tellement à cœur pour ça, parce que ce que j'ai vécu, je ne le regrette pas, parce que c'est ce que j'ai dû vivre. Et je pense que souvent, quand on se dit, ah oui, si j'avais connu ça à tel moment, ça m'aurait aidé, et ben c'est peut-être parce que justement si on se dit ça, c'est qu'on doit peut-être l'apporter aux autres personnes. Donc moi ce que je vous propose à travers les ateliers d'estime de soi, donc ce sera déjà des ateliers en live, donc bah, ce sera pas une formation en ligne, vous serez tout seul dans votre coin, etc. Donc ce sera vraiment interactif. Donc on va travailler sur vraiment plusieurs aspects de l'estime de soi. Donc ce ne sont que 3 ateliers, mais je pense que vraiment ça peut vous donner vraiment des clés, des libérations émotionnelles, puisqu'on va utiliser l'EFT aussi pour travailler sur les peurs. Et je me dédie vraiment cet atelier, même si voilà toutes les autres personnes qui sont intéressées sont les bienvenues, mais je le dédie vraiment à... Bah, tous ceux qui ont un projet professionnel et qui, comme moi, un petit peu ont galéré ou galèrent parce qu'elles ne se sentent pas assez sûres d'elles-mêmes, parce qu'elles doutent d'elles-mêmes, parce qu'elles n'ont pas appris à gérer en fait leur discours intérieur, leur partie égotique qui leur dit, voilà, qui leur rabâche tout le temps les mêmes pensées à longueur de journée et qui les empêchent en fait de réaliser ce qu'elles ont vraiment envie de réaliser. Moi, ça m'est arrivé. Vous le verrez dans la page de vente, je vous raconte un petit peu mon histoire, je vous mettrai la page de vente dans le descriptif de cet épisode. J'arrive plus trop à parler, je pense qu'il est temps que je termine l'épisode. Mais voilà, je pense que c'est tellement important. J'ai vraiment envie d'offrir ce que je n'ai pas reçu à l'époque, c'est-à-dire du soutien, c'est-à-dire des outils qui vont pouvoir m'aider, qui vont pouvoir aider les autres à mieux apprendre à s'autogérer, à s'estimer et à pouvoir partir en fait sur quelque chose qui part d'eux-mêmes et de l'acceptation d'eux-mêmes en fait. Parce que c'est vraiment, je pense que la base de l'estime de soi, c'est vraiment l'acceptation et on le verra dans les ateliers. Mais je vous laisse voir tout ça dans la page de vente que je vous mets en descriptif de cet épisode. Donc, je vais définir la date, je pense que ce sera aux alentours de fin août. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions, vous pouvez me poser des questions sur Instagram, j'y suis pas trop pour le moment, mais là je serai vraiment à l'affût des questions, donc n'hésitez pas, ou par email, voilà, vous avez de quoi finalement me joindre, donc n'hésitez pas, je serai ravie de discuter avec vous pour parler de ces ateliers, corps, et ben, je vous retrouve très bientôt, à très vite.